Imaginez, vous aménagez dans une petite municipalité, vous rêvez de vous intégrer à une communauté tissée serrée, paysage bucolique à la clé, pour découvrir finalement que vos voisins changent toutes les fins de semaine. Et ça, c'est la réalité des résidents de plusieurs villes du Québec où 5, 10 et même 38 % des logements servent à la location court terme, selon des données révélées par Le Devoir dans une enquête, ma foi, assez percutante ce matin. C'est la manchette du Devoir avec un titre évocateur, Airbnb prend d'assaut les villages champêtres. J'en parle avec Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, qu'on connaît bien sous l'acronyme FRAPRU. Madame Laflamme, bonjour.
Bonjour, Monsieur Quentin.
Madame Laflamme, c'est inquiétant les chiffres qui sont évoqués ce matin.
Oui, les données d'Inside Airbnb là, que le FRAPRU a obtenu et collégé donnent pour la première fois un portrait du phénomène à la grandeur de la province. Et vraiment, là, quand on fait les calculs, ça donne 25 000 logements entiers qui étaient affichés sur la plateforme Airbnb au Québec à la fin avril. On peut penser que les chiffres sont encore plus importants aujourd'hui. Et quand on met ça en parallèle avec le nombre de ménages locataires qui, dans plusieurs régions, ont toujours pas trouvé de logement pour le 1er juillet, ben on peut pointer, en tout cas, ces plateformes du doigt là comme facteur d'explication à cette pénurie de logements locatifs.
Alors, Madame Laflamme, expliquez-nous pourquoi les effets pervers de ça sont tellement importants.
Mais ce qu'on voit, d'abord, vous l'avez bien dit, juste pour des questions de voisinage, on le voit dans plusieurs quartiers montréalais, mais c'est le cas aussi dans des plus petites municipalités. Les gens qui louent des Airbnb sont pas toujours des voisins de choix, mais plus généralement, en fait, il y a un effet sur le tissu social de communauté. Il y a des gens carrément actuellement dans des municipalités, dans Charlevoix, dans les Laurentides, qui ne peuvent plus habiter dans leur village, des gens qui travaillent dans ces municipalités qui doivent aller de plus en plus loin pour se loger décemment et qui sont souvent les premières victimes de cette rareté de logements locatifs. Airbnb aussi contribue à la hausse des prix parce que là, il y a l'appât du gain. Et quand on regarde les données, ce qu'on voit actuellement, c'est que presque la moitié des logements entiers sont affichés sur la plateforme, sont affichés par des multilocateurs, c'est-à-dire des hôtes qui détiennent plus de un Airbnb au Québec, donc pour qui c'est une business. Alors, ce qu'on constate, c'est que ça contribue, ça, ce phénomène, à la hausse du prix des logements, parce que les gens se disent, je vais pouvoir louer un logement sur Airbnb, ou encore, je vais augmenter le prix de mon loyer parce que je pourrais aller chercher beaucoup plus, par exemple, en le mettant sur Airbnb, et c'est qu'on voit aujourd'hui dans les Laurentides, notamment, c'est que des personnes qui travaillent dans les services, qui travaillent à petit salaire, qui sont des retraités, qui sont des locataires depuis toujours dans ces régions-là, ne peuvent plus y vivre aujourd'hui.
Bon, alors, au départ, avec Airbnb, le phénomène, c'était des gens qui avaient, par exemple, une résidence secondaire ou qui quittaient leur résidence principale pour un voyage à long terme puis qui profitaient de la plateforme pour louer leur appartement ou leur maison. Mais là, ce qui s'est produit avec les années, c'est que ça a attiré l'attention, l'intérêt d'investisseurs. Alors là, si je comprends bien, Madame Laflamme, il y a de plus en plus de gens qui en font une business. Ils achètent des maisons dans des coins recherchés, des coins de villégiature recherchés, et puis ils louent ça sur Airbnb parce que la clientèle est là. Alors, ce sont comme des entrepreneurs au bout du compte.
Ben c'est ce que les données semblent révéler là. En tout cas, près de la moitié des logements entiers sont affichés par des gens qui n'ont pas juste un logement entier. Et c'est sûr que quand on regarde là, le type de logement, près de 40 % là, sont des logements locatifs au sens traditionnel, là, donc des propriétaires qui les louent pas à des locataires, mais il y a aussi des lofts, des condos, des maisons qui, dans plusieurs régions, se trouveraient là, en location traditionnelle s'ils n'étaient pas affichés sur la plateforme. Ceci dit, ce n'est pas nouveau que dans certaines régions, le tourisme a un effet sur la disponibilité de logements. Je pense à Gaspésie, aux îles, où il y a 10 ans déjà, on entendait parler de la difficulté de locataires de signer un bail 12 mois par année, des gens qui ont un bail pour 10 mois, mais quand l'été arrive, il faut s'en aller. On voit aussi aujourd'hui aux Îles-de-la-Madeleine à quel point le tourisme qui a augmenté durant la pandémie aussi met une pression énorme sur les locataires. On voit des locataires qui se retrouvent sans logement au 1er juillet carrément et qui le demeurent pour l'été aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, le tourisme contribue depuis longtemps dans certaines régions, mais là, vraiment, avec le phénomène Airbnb, on voit là, que ça contribue à retirer carrément du marché des appartements, mais aussi des maisons qui étaient destinées normalement à la population locale.
Bon, est-ce que des solutions?
Il y en a, mais ça prend de la volonté politique. Les municipalités ont le pouvoir de réglementer. Actuellement, la grande majorité des municipalités n'ont pas de réglementation sur le sujet nécessairement, ou les réglementations ne sont pas adaptées au phénomène Airbnb. Le plus simple, ça serait que le gouvernement québécois ait une réglementation pour l'ensemble de la province, qui faciliterait les choses. Surtout que plusieurs petites municipalités n'ont souvent pas les moyens de faire appliquer leur réglementation. Parce que ce qu'on constate actuellement, même à Montréal, là où il y a des réglementations dans certains arrondissements, elles sont contournées. Il y a les illégaux pullulent. Donc, il y a beaucoup d'Airbnb illégaux. Les plateformes devraient être responsabilisées et jouer un rôle, notamment en demandant les numéros d'hébergement, les numéros d'enregistrement pour s'assurer que la réglementation québécoise, même si elle est insuffisante, soit appliquée. Mais je voudrais que dans un contexte de très grande rareté de logements locatifs comme celle qu'on connaît actuellement au Québec, il faudrait carrément interdire, comme on l'a déjà fait, comme ça fait déjà dans certaines municipalités, il y a des moratoires, par exemple, sur la transformation de logements locatifs en condos quand les taux d'inoccupation sont bas. Ben là, au moment où on se parle, quand on regarde l'ampleur du phénomène, c'est à ça qu'il faudrait réfléchir si on n'est pas capable de faire appliquer les règlements qu'on a.
Madame Laflamme, restez avec nous. On va inclure dans la conversation le maire des îles de la Madeleine. Vous en avez parlé des îles de la Madeleine dans vos propos. C'est Jonathan Lapierre qui est le maire de la municipalité aux îles de la Madeleine. Monsieur Lapierre, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Lapierre, vous venez d'entendre Madame Laflamme. Elle a évoqué toute cette problématique-là. C'est quoi la situation concrètement aux îles de la Madeleine?
Écoutez, la situation n'était pas très différente que celle qui a été mise en lumière là il y a quelques instants de ça. Écoutez, ici, il faut quand même reculer de quelques années en arrière. L'industrie touristique s'est développée au cours des trois dernières décennies, donc depuis une trentaine d'années, en collaboration avec la population des îles. Il y a des choix qui ont été faits, et notamment, ou plus particulièrement, au niveau de l'hébergement. Donc, les résidents des îles, les Madelinois et les Madeliniennes, ont choisi à une certaine époque de mieux répartir, si on veut, les retombées économiques de l'industrie touristique et plus particulièrement le secteur de l'hébergement. Donc, c'est pour ça qu'il y a très peu d'hôtels sur les îles et qu'il n'y a jamais eu de chaîne d'hôtels en particulier, comme on voit souvent dans d'autres villes ou d'autres régions du Québec. Donc, le modèle d'hébergement ici s'est développé chez le résident, donc qui mettait rendait sa résidence principale disponible pendant l'été pour l'hébergement touristique et s'évinçait lui-même ou eux-mêmes de leur propriété, donc faisait du camping. Donc, ce modèle-là a tenu en place pendant quelques années. Donc, c'est vrai, il y a eu des bonnes et des belles retombées économiques. La richesse est partagée à l'ensemble de la collectivité. Évidemment, le secteur d'hébergement ne s'est pas développé avec des chaînes hôtelières, mais plutôt, comme je le disais, chez les résidents des îles. Jusqu'à ce que, finalement, d'autres personnes réalisent qu'il y avait un commerce intéressant à faire avec ce principe-là. Et là, on a vu une augmentation d'achats de propriétés, mais de résidences secondaires. Donc, soit des résidents permanents des îles qui achetaient une deuxième ou une troisième maison pour en faire de la location temporaire ou de la location touristique, ou des gens d'ailleurs au Québec ou même ailleurs au Canada qui achetaient une deuxième, une troisième, une quatrième maison ici et les rendaient disponibles pour en faire du commerce. Vous savez, lorsque on veut acheter une maison unifamiliale, par exemple, qui est mise en vente à un coût de 200, 300 000 $ ou 400 000 $ et qu'on réalise qu'on peut aller chercher un revenu par année entre 20 et 30 000 $ de revenus de location sur une période environ de 2 mois, bien souvent, les gens étaient intéressés à payer plus cher pour cette même propriété-là. Donc, ça faisait gonfler le prix. Donc, avait un effet immédiat sur la spéculation immobilière sur le territoire des îles. Donc, ça a eu des effets pervers, des effets négatifs sur l'augmentation de la valeur des propriétés qui est augmentée parce que les gens, évidemment, réalisaient qu'ils pouvaient en faire un revenu.
Alors, vous avez été obligé d'agir, là.
Absolument. En fait, l'an passé, à la veille de la dernière campagne électorale municipale, on a mis sur la table les cartes sur la table auprès de la population en disant, écoutez, on pense qu'il faut agir, il faut agir maintenant, et on vous propose de réglementer, de légiférer. Donc, avant même la période électorale, on a adopté un avis de motion dans le monde municipal. Ça annonce notre intention d'adopter un règlement. Et ce règlement-là fut adopté le 8 février dernier, et c'est un des plus sévères du Québec.
Qu'est-ce qu'il dit le règlement, M. Lapierre?
Mais maintenant, à partir du 8, ben, en fait, à partir du 8 février dernier, il est interdit de convertir une résidence secondaire en résidence de tourisme ou en résidence Airbnb pour de la location court terme. Ce qu'on peut faire avec une résidence secondaire, c'est soit l'habiter, évidemment à titre personnel, ou la louer sur du long terme, donc sur le marché locatif à l'année pour des gens qui travaillent ici et qui ont besoin d'un logement pour évidemment pour y habiter et pour vaquer à leurs occupations familiales.
Et comment les citoyens des Îles-de-la-Madeleine ont réagi à ça? Il devait y avoir des gens qui n'étaient pas contents, là, par exemple.
Ben absolument. Et d'ailleurs, j'ai fait une longue entrevue sur vos ondes il y a quelques mois de ça, justement parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Parce que deux choses. Il y a des gens, évidemment, qui ont perdu des occasions de vente et des occasions de vente à gros prix pour leur propriété, puisqu'il y avait un acheteur l'autre bout qui voulait évidemment en faire acquisition pour la rendre disponible pour la location court terme. Et évidemment, il y avait même des gens qui opéraient des commerces, un deuxième, un troisième, une quatrième propriété pour en faire de la location court terme. Donc, il y a des gens qui ont perdu des revenus ou des occasions d'affaires. Donc, ça a créé une certaine discussion quand même assez animée pendant un certain temps sur le territoire des îles. Mais au final, c'est un très bon règlement. Je le répète, l'un des plus sévères du Québec, puisqu'il est venu encadrer de façon toute particulière la possibilité de convertir une résidence unifamiliale en résidence de tourisme. Donc, il y a des zones très précises sur le territoire des îles. En fait, 5 zones, ce qu'on appelle des zonages de villégiature. Et dans cette toute petite zone-là, on peut évidemment opérer un Airbnb ou un commerce de location court terme, évidemment à condition d'avoir tous les permis qui sont requis pour opérer ce genre de commerce-là.
Madame Laflamme, je me retourne vers vous en terminant. Vous écoutez le maire des Îles-de-la-Madeleine expliquer son nouveau règlement. Est-ce que vous y voyez une piste pour d'autres municipalités?
Tout à fait. Les municipalités ont le pouvoir d'agir, puis avec la volonté, elles peuvent adopter des règlements ambitieux. Alors, tout à fait, les municipalités doivent prendre les devants parce que ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, elles sont aux prises avec les conséquences de la crise du logement dans leur communauté. Alors, il faut agir le plus rapidement possible pour conserver ces logements, ces maisons dont a besoin la communauté locale. Mais je vous dirais que dans certains cas, le mal a été fait. Alors, il faut aussi travailler aux alternatives pour que la population puisse se loger décemment 12 mois par année. Je sais qu'aux îles, les gens travaillent là-dessus également, des projets de coopératives d'habitation, notamment de logements sans but lucratif, pour que les gens puissent avoir un endroit, là, surtout la population à faible et modeste revenu qui n'a plus du tout les moyens d'acheter, hein, aux îles, on le sait, pour que ces gens-là puissent être logés décemment 12 mois par année également.
Véronique Laflamme, vous êtes porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU. Et Jonathan Lapierre, vous êtes maire de la municipalité des îles de la Madeleine. Merci à vous deux.
Merci beaucoup. Plaisir.
Bonne journée et à une prochaine. Au retour, est-ce qu'on se dirige vers l'été des soldes?